Géopolis. L'envers du monde. Jacques Mourican.
Bonjour. Ces événements du Proche-Orient qui nous occupent depuis le début de l'été sont le plus souvent commentés par des experts des régions concernées. C'est bien normal. Mais il y a un ensemble de questions qui nous viennent et qui dépassent la simple connaissance du terrain. Est-ce que l'on peut expliquer que des peuples aient, des décennies durant, supporté des dictateurs, en vérité, des véritables satrapes? Y a-t-il, en quelque sorte, des tempéraments qui se prêtent à tel ou tel mode de gouvernement? Autre question, puisque nous sommes dans des régions du monde où l'islam est largement dominant, y a-t-il une théorie du pouvoir que ces textes promeuvent? Et puis, qu'est-ce que tout ceci nous dit de nos relations avec cette région du monde? Car enfin, il n'est pas possible de ne pas voir que tous ces pays en feu sont d'anciennes colonies, quelle que soit l'appellation exacte qu'on leur donne. Prenons le temps de réfléchir, laissons de côté la politique et tournons-nous vers la philosophie. Reda Ben Kiran est un homme qui a un pied sur chacune des rives de la Méditerranée. Il est né au Maroc, mais il vit à Genève, où il a notamment obtenu un diplôme de l'Institut universitaire d'études du développement. Il est sociologue et anthropologue. Le pouvoir, il connaît. Il a été responsable de l'information auprès de l'ancien président algérien Ahmed Ben Bella. Et après bien des étapes, le voici philosophe. Il faut signaler qu'il a aussi été un des responsables, pendant quelque temps, du think tank, comme on dit, le lieu de réflexion, si vous voulez, qu'avait lancé la chaîne Qatari Al Jazeera. Bref, c'est à la fois un homme qui nous connaît bien et qui comprend bien intuitivement les femmes et les hommes qui se soulèvent au sud de la Méditerranée.
C'est vrai qu'il y a eu des actes d'immolation. On peut dire que c'est ces étincelles qui ont propagé la flamme et l'élan révolutionnaire. Il y a des milliers de morts. Mais je ne crois pas trop me tromper en disant que l'individu arabe contemporain vit un moment de grande joie parce que nous sortons d'une sorte de fatalisme, mais dans le sens le plus déterministe, un peu ce que évoquait Leibniz du fatalisme à la turque, c'est-à-dire que nous avions l'impression que tout était bouché, que les dirigeants et leurs familles, disons, avaient décidé du sort de peuple entier. Et là, soudainement, c'est l'horizon qui s'ouvre. Voilà.
Mais justement, sur ce point, beaucoup d'Européens ont partagé le point de vue que vous venez d'énoncer, c'est-à-dire, oh ben c'est normal. C'est comme ça. Ces pays, ces peuples aiment à être dirigés par des dirigeants autoritaires. Et puis là, c'est la surprise. Alors, comment expliquez-vous d'avoir peut-être quand même, en effet, une période où ces dirigeants ont été, semble-t-il, acceptés?
Ce qui se vit actuellement, c'est, si vous voulez, la deuxième partie de la lutte de libération nationale. Il y a un demi-siècle, en accédant à l'indépendance formelle politique, les sociétés du monde arabe pensaient que l'essentiel avait été fait. Et en fait, ce qui se joue actuellement, c'est la libération de l'individu. C'est-à-dire que, malheureusement, très vite après les indépendances, un peu partout, dans tous ces pays, se sont mis en place des équipes qui ont non seulement, disons, se sont appropriées les richesses, ont réduit, disons, l'espace politique, mais aussi ont servi, aussi, il faut le dire, de relais par rapport à des intérêts plus grands. Donc la période post-coloniale, c'est aussi la poursuite d'une culture de la domination, mais à travers des élites dirigeantes locales. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité, à travers cette révolution sociale du Maroc à l'Irak, probablement aussi au-delà, c'est cette volonté de maîtriser son destin. Et je pense que là, nous allons terminer une époque liée à la période coloniale et peut-être entamer de nouvelles relations avec, avec l'Europe et avec les anciennes puissances coloniales basées sur une certaine, sur un respect et aussi sur une certaine égalité. Parce que désormais, je crois que beaucoup de choses vont changer. Ces sociétés maintenant sont parfaitement au fait des mécanismes économiques, politiques, de domination et vont vouloir aussi prendre en main leur destin. Je crois que ça va être peut-être un choc pour le flanc nord de la Méditerranée, mais je pense qu'à long terme, ça va être extrêmement constructif.
L'arrivée de Ben Bella à Alger a pris les allures d'une entrée triomphale. Si à sa descente d'avion, il avait été salué par M. Abderrahman Farès, président de l'exécutif provisoire, c'est au milieu d'une foule de voitures que le cortège a dû se frayer un passage jusqu'à Alger, où l'attendaient de nouvelles démonstrations d'enthousiasme. Plus tard, à la préfecture, Ben Bella s'est retrouvé avec Belkacem Krim, Ben Reda et le président de l'exécutif provisoire. La collaboration de ces quatre hommes semble aujourd'hui en fait accomplie. Le bureau politique devient le dépositaire de la souveraineté nationale et le GPRA un organisme d'exécution jusqu'aux élections.
Si je vous entends bien, Reda Benkirane, vous êtes en train de me dire d'une autre façon que les dirigeants issus de l'indépendance, immédiatement après les combats, en quelque sorte se sont attribués le costume de ceux qui étaient là peu de temps avant, qui n'avaient pas la même couleur de peau, mais qui étaient que le système colonial.
C'est une phase historique. Les dirigeants qui étaient un peu moins rebelles, je citerai par exemple l'exemple d'Ahmed Ben Bella qui accède à l'indépendance. 2 ans après, il était renversé. Mais ce renversement en Algérie s'est accompagné de plus de 30 coups d'État en Afrique. Et beaucoup de leaders de la période de l'esprit du non-alignement, de la conférence de Bandung, sont tombés et ce sont les seconds couteaux de l'histoire qui sont entrés en scène et qui ont façonné un peu les nouveaux États. Et cette phase s'achève aujourd'hui. Nous vivons après tout la première révolution du XXIe siècle. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce phénomène? Un changement systémique qui métamorphose du quantitatif en qualitatif. On avait perdu l'espoir, quelque part, que cela puisse advenir et que cette subversion au nom de la liberté puisse se propager.
L'aspect imprévisible, c'est très intéressant ce que vous dites là, car en effet, on a tous été stupéfaits, mais à bien y regarder, est-ce que vous avez le sentiment que c'était en quelque sorte aussi imprévisible que ça, que ça n'est pas plutôt la question de savoir si on ne regardait pas au mauvais endroit?
Je crois que toutes les analyses qui essayent d'expliquer que oui, tous les ingrédients étaient là, etc., ce sont des lectures a posteriori, un peu, rappelez-vous, comme l'effondrement de la bourse. Après, on a eu toutes sortes d'analyses qui nous expliquaient que c'était inéluctable. Donc, c'est une lecture a posteriori. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ce qui se passe, c'est que du pire des mondes possibles, le monde arabe, celui du despotisme, du népotisme, du clientélisme, ce monde arabe est en train de devenir une gigantesque place de la libération, une Midan Tahrir, qui universalise au sein du village global les luttes sociales et politiques de peuples qui sont en somme toute assez jeunes et semble-t-il de mieux en mieux formés. Parce qu'il y a aussi cet aspect, c'est que nous ne sommes pas là face à des émeutes de la faim, à des jacqueries. Nous sommes là à un mouvement déterminé qui touche autant des populations affectées par la crise économique, comme dans le cas de la Tunisie ou les soulèvements en Algérie ou au Maroc, mais aussi dans les pays plus riches. En Libye, c'est un niveau de vie très supérieur. Le Bahreïn, c'est un pays où les gens ont un niveau de vie presque quasiment comparable au niveau de vie européen. Donc, je crois que cette revendication de liberté, ces mots d'ordre à la fois subversifs et incandescents, liberté, dignité, justice, le fait de dire « dégage », ça c'est radicalement nouveau et c'est d'autant plus nouveau que ce n'est pas porté par une idéologie ni par un leader. Voilà, nous sommes près plus de 3 mois après. La révolution sociale s'est propagée dans un très grand nombre de pays. Nous n'avons toujours pas de leader, nous n'avons pas de parti qui a émergé. Même si toutes sortes de partis, toutes sortes de structures d'associations civiles participent de ces luttes. Il n'y a rien de religieux. Et ça, c'est une phase extrêmement intéressante à observer. On nous avait annoncé le retour du religieux. Moi, personnellement, j'ai écrit un livre où pour moi, le mouvement d'islam politique apparaissait pour moi comme une sorte de sortie du religieux. C'était une forme paradoxale de sécularisation. Et rappelez-vous...
Attendez. Alors, prenez du temps pour le dire, parce que c'est vrai que ça tombe pas sous le sens. En quoi ?
Si vous voulez, ce qu'on appelle l'islamisme ou islam politique, bon, c'est une mouvance extrêmement large. Hein. Donc, vous avez toutes sortes de partis, des plus modérés, légalistes, démocratiques ou plus radicaux et clandestins. Mais si vous voulez, si vous faites une analyse à court terme et superficielle, effectivement, si vous les prenez au mot, vous avez l'impression que depuis 30 ans, le vœu le plus fondamental, si je puis dire, de ces mouvements, c'est l'instauration de théocratie. Mais si on analyse d'un point de vue sociologique, mais aussi politique, si on ancre ça dans la longue durée, on se rend compte, et si on tient compte de ce que je vous évoquais, du rôle extrêmement néfaste de ces équipes qui se sont accaparées les États au lendemain des indépendances politiques, vous vous rendrez compte que finalement la religion est devenue une sorte d'asile politique et que quelque part la demande de droit, hein, cette fameuse droit coranique, la charia qui est invoquée comme ça de manière incantatoire, quelque part c'est une demande très forte d'un sens de l'État de droit, d'une société où règne la justice. Et le fait que le sens de l'État soit si faible dans ces sociétés, du fait d'activités népotistes, d'accaparement des richesses, etc., fait que la religion est devenue un vecteur de la lutte politique. Mais je ne pense pas que ce soit la finalité. Et je pense qu'il faut analyser ça d'un point de vue évolutif. Il y a 30 ou 40 ans, les mouvements de résistance ou d'opposition étaient tous des mouvements de gauche ou marxistes. L'islamisme, si vous voulez... Au lendemain des indépendances politiques, il y a eu une politique d'arabisation systématique. Cette politique d'arabisation systématique a produit l'émergence de ces mouvements islamistes qui, eux, ont travaillé à une islamisation de la société. Et je dirais qu'aujourd'hui, ces sociétés sont entrées dans une phase de démocratisation et de sécularisation. Et j'insiste sur le plan de sécularisation qui correspond aussi à un niveau de formation, c'est-à-dire quand vous avez des sociétés de mieux en mieux alphabétisées, quand la majorité de la population est alphabétisée, ce qui est pratiquement le cas dans tous les pays, mais à des vitesses et à des degrés moindres, quand vous avez des phénomènes d'urbanisation massive, que la majorité des habitants habitent en ville, etc., le phénomène de mondialisation des échanges, de circulation des idées, c'est ce que révèle cette révolution en cours. C'est une sécularisation qui n'est pas anti-religieuse et dans laquelle ces mouvements islamistes, en tout cas ceux qui s'inscrivent dans un jeu, disons, démocratique, normal, ouvert et légaliste, peuvent contribuer justement à la mise en place de systèmes plus pluralistes, je dirais.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai, ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur, ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
Géopolis, l'envers du monde, Jacques Mourican.
Notre invité du jour est le philosophe et anthropologue genevois Reda Benkirane.
Il y a une dimension que vous avez évoquée déjà, qui est celle de la soudaineté, on en a parlé. Et vous dites, au fond, les idées démocratiques, elles étaient là, quelque part, latentes. Comment diriez-vous qu'elles sont venues ?
Je pense que ce sont les combats précédents des générations des années 60 et 70, donc des mouvements de gauche de cette époque, qui ont subi aussi une répression terrible. Puis ensuite, je pense aussi que les mouvements islamistes, c'est ça qu'il faut voir derrière cette revendication du religieux, il y a véritablement une demande et des propositions concrètes pour pas simplement capitaliser le mécontentement social ou mobiliser, de susciter des dynamiques sociales, mais il y a la volonté de renforcer des solidarités, de réduire l'injustice sociale, les différences socio-économiques. Donc ces mouvements aussi ont un aspect citoyen. Je parle en tout cas de ceux qui s'inscrivent dans une légalité, qui sont pour le pluralisme. Et si vous voulez, c'est une maturité. Moi, je pense que les sociétés civiles ont acquis une maturité. Fondamentalement, ce qui est survenu, pour l'essentiel, c'est pas tellement sur le plan politique, mais je pense que c'est une révolution mentale. C'est-à-dire qu'au plus profond de la psyché collective, une structure archaïque, c'est-à-dire le verrou de la peur, a sauté. Et c'est ça, je pense, qui est d'ores et déjà gagné et acquis. Peu importe, on est triste de voir qu'en Libye, Kadhafi et sa clique, son clan familial, ont quelque peu retardé cette révolution qui allait très vite. Hein. Et les dirigeants arabes sont maintenant, en suivant ce qui se passe en Libye, sont intéressés de résister et de tuer le plus grand nombre de manifestants qui n'ont que leur poitrine comme seule armure. Donc il y a un phénomène de contre-révolution qui se met en place. Mais je pense que fondamentalement, quelle que soit l'issue de différentes expériences en cours, ça ne passera pas facilement, évidemment, dans chacun des pays. Rappelez-vous aussi en Europe, après l'effondrement du mur de Berlin, ça a mis 20 ans. Il y a eu des guerres, il y a eu des mouvements chauvins, il y a eu des phénomènes de violence. Donc ça, je pense qu'on va passer par toutes sortes d'épreuves. Mais fondamentalement, ce qui est acquis, il n'y a plus cette peur du dirigeant. C'est un verrou immémorial qui a sauté. Et c'est là où je dirais qu'il y a une véritable modernité et que c'est très très intéressant à observer.
The generation of Egyptians who have known no other leader than President Hosni Mubarak is also Generation Facebook. Egypt is the number one user of Facebook in the Arab world and 23rd globally. And it has the highest number of blogs in the Arabic-speaking Middle East. Facebook, Twitter and YouTube aren't just for party pictures or flirting. They've become slingshots aimed at a regime many never imagined they could take on.
Et puis l'autre aspect aussi de ce printemps arabe, ça se base sur ce que j'appellerais une raison infotechnologique. C'est-à-dire que les moyens de communication et d'information ont joué un élément clé, en tout cas peut-être dans le déclenchement, il y a un aspect catalytique. Les jeunes qui manipulaient parfaitement les technologies de la communication ont utilisé les effets de levier en couplant, si vous voulez, la souplesse des réseaux et la sagesse des foules. Hein. Donc, si vous voulez, c'est une sorte d'intelligence à la fois cognitive, collective et connectique qui se met au service du plus grand nombre, qui a mobilisé, organisé les constataires, mais qui a aussi permis de sensibiliser l'opinion publique internationale, qui, après tout, je dirais, la première puissance politique de notre temps. Hein. Ce que j'appelle, moi, une gigantesque boucle rétroactive. Donc, vous avez ces services quasiment universels que sont les flux de Facebook, Twitter, les résultats de Google affleurant en temps réel et la couverture surtout permanente d'Al Jazeera qui diffuse à la volée vidéos, textos, appels téléphoniques des citoyens qui étaient en prise directe avec les événements. Cette boucle-là a synchronisé les consciences. Effectivement, ce qui se passe au Maroc, ce n'est pas la même chose qui se passe en Algérie, ce n'est pas la même chose que la Tunisie, etc. Mais cette boucle infotechnologique, si vous voulez, a mis en réseau et en résonance différentes contestations qui avaient lieu dans différentes sociétés, qui ont différents degrés d'évolution, de maturation, etc. Donc là, il y a eu un rôle fondamental des technologies de l'information.
Sûrement, en même temps, on peut penser que les populations, c'est les jeunes et les vieux, il y a tout le monde. Et que là, il y a eu une fusion des générations, car les jeunes avaient la facilité d'utiliser ces technologies alors que leurs parents, leurs grands-parents n'étaient pas très à l'aise et pourtant les parents, les grands-parents étaient bel et bien dans la rue.
Oui, l'autre aspect aussi nouveau de cette révolution, toutes les classes sociales se retrouvent, on transcende les différences ethniques, berbères, arabes, kurdes, tout ça, on transcende les différences confessionnelles, on a voulu jouer sur les différences entre chrétiens, et musulmans, etc., en Égypte, etc. Mais on voit que les différences de classe, d'ethnie, de confession, d'âge, ce que vous disiez, c'est transgénéral, et aussi de sexe. C'est-à-dire que les femmes sont partie prenante dans ces luttes. Donc ça, c'est extrêmement nouveau.
Des éclats de voix au petit déjeuner, dans l'hôtel où réside la presse. Une femme en pleurs vient de s'installer à la table des journalistes.
J'ai subi des sévices. Les hommes de Kadhafi m'ont violée. Ils disent qu'ils sont nos frères, mais c'est faux. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Ils ont bafoué mon honneur.
Et je pourrais donner un symbole de Imen Obeidi, la Libyenne, qui était apparue dans les écrans de télévision, dans un hôtel à Tripoli, au milieu de journalistes qui avaient dénoncé les viols qu'elle avait subis de la part de membres de la soldatesque de Kadhafi. Par exemple, ça, c'est un symbole très important parce que dans le monde arabe, dans les structures traditionnelles, le viol est quelque chose qui touche à la dignité d'une personne, extrêmement honteux, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas afficher en public. Elle a parlé à la télévision, elle est devenue une icône. Beaucoup de gens se sont solidarisés avec cette jeune avocate, militante des droits de l'homme en Libye. Et ce qui relevait dans l'ancienne grille d'analyse de la chose honteuse que l'on doit taire, que l'on doit cacher, qui déshonore, est devenu un symbole de lutte. C'est-à-dire que, moi j'ai lu des blogs extraordinaires, on disait « Imen Obeidi, c'est la Libye qui a été violée par Kadhafi et ses sbires ». Donc, elle aussi, c'est sa dignité qui était en jeu. Je pense que nous vivons une modernisation des structures mentales qui me porte à long terme en tout cas, à avoir beaucoup d'espoir pour toute la région. L'utopie de d'une patrie arabe, d'une union arabe sur le plan politique était là dès le début des indépendances. Nasser, etc. Le grand rêve arabe d'une confédération. Ce rêve n'a jamais pu se traduire sur le plan politique parce qu'il y avait plus de 20 États avec des tensions, etc. Mais ce rêve s'est accompli quelque part dans ce qu'on appelle l'espace à la fois télévisuel et cybernétique. Cette unité, cette Oumma arabe ou arabo-musulmane existe sur le plan digital. Le phénomène d'Al Jazeera a réalisé ça. Al Jazeera est vu dans le moindre café, dans les coins les plus reculés de l'Atlas, du désert. Et quelque part, il y a une unification au niveau de la langue. C'est-à-dire des gens qui parlent différents dialectes, etc., voient le même type d'information. Une information qui essaye de couvrir tout l'espace arabe. Ça, si vous voulez, ça a permis de créer un espace de débat et de discussion depuis une dizaine d'années. Ajoutez à cela maintenant ce phénomène des blogueurs, les militants, des associations civiles qui utilisent massivement ces nouveaux outils. Et vous comprenez que quelque part, ce rêve d'une unité arabe est réalisé sur un plan mystique, dirais, imaginal. Mais je pense que la raison infotechnologique permet quelque chose qui, sur le plan virtuel, existe, et effectif, mais sur le plan d'un territoire physique, relève d'une utopie.
Tens of thousands of anti-government protesters taken to the streets demanding change in Egypt Al Jazeera International is reporting that they have been told by Egyptian authorities to switch their cameras.
Les gens n'ont rien à cacher. D'ailleurs, ce n'est pas illégal, même s'ils veulent faire peur aux gens. En fait, ce n'est pas illégal de d'être sur Facebook, d'échanger des informations avec les gens.
Diffuser Internet au service des révoltes. On l'a vécu et suivi en direct. La Tunisie, il y a eu l'Égypte, le Bahreïn, aujourd'hui la Libye, l'Arabie Saoudite. Même notre pays n'est pas à l'abri. Le monde arabe est secoué aujourd'hui par un vent de révolte.
L'actualité, et puis d'ailleurs, par ailleurs, les blogs sont technologiquement, c'est une invention américaine, je veux dire, ensuite, ça c'est... Il y a quelque chose là qui fait beaucoup réfléchir sur cette espèce de rencontre, de contribution, alors pour le coup technologique, aussi de mise en scène de l'information, de pôles alors qu'ils sont bien plus éloignés que ceux à l'intérieur du monde arabe. Parce que ça fait intervenir des ingénieurs américains, ça fait intervenir des journalistes britanniques, etc.
Al Jazeera, ce qui veut dire la péninsule, moi je connais assez bien parce que j'ai cofondé un centre d'études, le think tank d'Al Jazeera. J'ai passé 4 ans à conseiller la direction générale, j'ai vu de l'intérieur ce réseau de télévision. C'est vraiment international, à la fois sur le plan des nationalités du monde arabe, mais ailleurs. Donc c'est devenu un service quasi universel, comparable à Google ou Facebook ou Twitter. Ceci étant dit, Al Jazeera a joué un rôle extrêmement important. Et il y a aussi des zones d'ombre dans Al Jazeera. Mais vous remarquerez que dans ces nouvelles technologies de l'information, il y a un aspect dual. C'est-à-dire qu'on peut voir dans Al Jazeera ou Google ou Facebook des aspects qui peuvent prêter à la prudence parce que contrôle de la vie privée. Enfin, par exemple, dans le cas d'Al Jazeera, elle a un discours différent quand il s'agit des pays du Golfe ou bien du Qatar. Parce que qu'en est-il du Qatar si des luttes sociales démarraient? Qu'en est-il des camps de travail, des populations immigrées qui bâtissent à la sueur de leur front ces fameuses tours insensées de la modernité de la péninsule? Voilà, il y a un aspect ambivalent, hein, mais on est toujours dans le village global, c'est-à-dire Google, c'est la même chose. Regardez la puissance de contrôle des données privées, le fait que Google puisse s'accommoder des conditions posées par le régime chinois autoritaire. Regardez Facebook aussi, la richesse colossale qui peut être créée en utilisant ou en vendant les données privées des utilisateurs. Donc on n'est jamais dans quelque chose de totalement blanc ou totalement noir. Donc il y a un aspect ambivalent. Mais moi, je pense qu'il n'y a rien de spécifiquement arabe dans ces révolutions. C'est ça qu'il faut voir. C'est que cette raison info-technologique nous renseigne sur peut-être les nouvelles formes de lutte ou de combat démocratique. Parce que ça parle aussi par rapport à nos sociétés. Nous vivons en Europe, aux États-Unis, dans des sociétés ouvertes, plurielles, etc. Mais nous constatons, depuis une dizaine d'années, que le modèle démocratique est en crise, que le jeu démocratique, son fonctionnement ne suscite plus les mêmes motivations, qu'il y a un recul, le taux d'abstention est de plus en plus important, et comme par hasard en Europe, l'Europe vit une sorte de désarroi, de crise identitaire par rapport, disons, aux compétiteurs mondiaux. Il y a une fermeture, il y a un repli sur soi. Remarquez comment cette désaffection du jeu politique, ce désengagement profite aux mouvements conservateurs ou de droite plus ou moins durs, extrêmes, qui ont tout en commun, vous remarquerez, la focalisation sur l'immigré musulman, mahométan, fanatique, etc. C'est extrêmement intéressant de voir qu'au moment que pratiquement dans différents pays, en Suisse, en France, en Hollande, en Angleterre, vous avez ces partis qui deviennent maintenant, qui reconfigurent le jeu politique, et dans le même moment, le monde arabe en entier qui vibre et prêt à tout pour l'avènement de la liberté, de la dignité, de la justice, enfin des thèmes qui sont universaux. Pourquoi je vous fais cette comparaison? C'est que peut-être qu'aussi en Europe, parce que nous sommes aussi soumis à des formes de tyrannie plus subtiles, regardez après la crise financière de 2008, on avait promis de réformer fondamentalement le système financier international. Et on s'est dépêché de rembourser les banques, etc. Mais ce sont des peuples européens, en l'occurrence, qui payent les frais. Et quelque part, ce qui se passe en Grèce, en Irlande, en Portugal aujourd'hui, probablement demain en Espagne et peut-être même en France, il y a un sentiment de fatalisme. Hein, la dictature des marchés veut qu'on ne peut rien changer, on ne peut pas changer les règles du jeu. Et quelque part, ces nouvelles formes de lutte, avec une aspiration profondément démocratique, mais qui ne s'exprime pas à travers un jeu formel d'élections, etc., pas encore, peuvent donner à voir les luttes qui auront lieu à travers ces nouveaux outils en Europe et en Amérique, je pense. Je ne vois pas l'aspect proprement spécifique au monde arabe. Je pense que c'est cette première révolution du XXIe siècle que nous n'avons pas à venir est peut-être annonciatrice de d'autres types de mouvements qui peuvent avoir lieu en Europe, mais aussi en Chine, en Asie. Il paraît qu'en Inde, maintenant, il y a le mot jasmin, le mot-clé jasmin devient... Voilà, c'est un fort... parfum de contestation.
Je voudrais quand même vous demander, passer le temps de l'enthousiasme, qu'est-ce que vous inspire l'après, si je puis dire, l'immédiat après, maintenant, en tout cas dans deux pays, la Tunisie et l'Égypte, il faut construire. Et j'ai envie de vous dire que construire, c'est un métier. Il y a une dimension forcément plus besogneuse. Quel jugement portez-vous sur elle ?
Le chantier est immense. Moi, je reviens du Maroc. Je suis beaucoup ce qui se passe au Maroc. Je suis en Algérie. Je vous ai dit que j'ai des liens très, très forts avec l'Algérie. J'ai vécu en Algérie. Nous avons cru... un changement démocratique il y a longtemps, mais là, la contestation revient, au sortir d'une décennie sanglante, les années 90, ça bouge dans tous les pays. Je ne suis pas intéressé par savoir les outputs en termes d'équipe. J'ai passé des journées avec des opposants tunisiens, Monsef Marzouki, à Doha, j'ai rencontré Rachid Ranouchi, mais je dois avouer que je n'étais pas très intéressé par... J'ai l'impression qu'un nouveau monde, une nouvelle page se tourne et que c'est un chantier immense. Je suis sûr qu'il va y avoir énormément de problèmes, que ça ne va pas se faire facilement, parce qu'on a peut-être en Tunisie réussi déjà l'inespéré à renverser un dictateur, à dissoudre son parti, à entamer un processus de réforme constitutionnelle. Mais enfin, tous les gens qui ont contribué à ces systèmes sont là. Donc ça va prendre du temps. Et toute révolution, je veux dire, il faut la juger dans le temps long. Mais moi, ce qui m'interpelle en tant que, à la fois, homme des deux rives, hein, du Nord et du Sud, moi, ce qui me ravit, ce que je vous ai dit, on a déjà gagné ça, c'est qu'une révolution mentale a eu lieu, et quelque part, ça va libérer énormément les gens. Je pense que nous allons avoir une production sur le plan social, culturel, intellectuel, politique, dont les retombées seront immenses. Imaginez que l'horizon s'ouvre. Donc, moi, personnellement, je travaille depuis 3 ou 4 ans à un sujet de livre, un sujet de recherche sur une philosophie de la liberté en islam, sur une métaphysique sécularisée en islam. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, l'islam sécularisé ? Vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est un sujet difficile et sensible et qu'il y a beaucoup de tabous. Et moi, j'étais persuadé jusqu'à il y a quelques mois que ce sujet, je ne pouvais le développer que dans le cadre du laboratoire européen. Voilà, l'islam en tant que phénomène minoritaire, entre une islamophobie plus ou moins savante et puis des replis identitaires, développer une réflexion nouvelle et novatrice. Cette réalité nous a dépassés. Donc je me retrouve totalement en phase avec une réalité qui va très très vite. Donc il nous faut inventer des concepts. Je disais qu'il n'y a pas d'idéologie de programme. Mais il faut inventer une pensée, il faut inventer des concepts, il faut inventer un art. Et je pense que ça va libérer sur le plan de l'énergie psychique des individus énormément de choses. Et pour moi, c'est ça qui est l'essentiel. Après, quelles vont être les traductions politiques, etc. Bon, de ce point de vue-là, je m'attends à toutes sortes de difficultés. Mais je pense que sur le long terme, nous allons avoir vraiment une période très très intéressante à observer.
يا مرحبا يا مرحبا يا الله يا سيدي
Géopolis, Jacques Mourican.
Notre invité du jour est le philosophe et anthropologue genevois Reda Benkira. Est-ce que, par exemple, il vous paraît raisonnable d'imaginer une presse qui puisse être... sans être offensante, bien sûr, vis-à-vis de quelque religion que ce soit, dont l'islam, mais qui puisse avoir une liberté d'analyse de l'islam, d'analyse de la religion. Que cette espèce de fusion qu'on a vue s'agissant du politique, on puisse le retrouver sur le religieux, qui vient en réalité de penser qu'ils sont plus éloignés probablement de l'autre bout du monde.
J'ai noté dans les différents débats auxquels j'ai assisté, dans certaines manifestations que j'ai vues à Rabat, dans les discussions avec certains opposants, j'ai vu un décalage entre la génération qui a plus de 40 ans, je dirais, qui cherche toujours des schémas d'analyse plus ou moins éculés, et la jeunesse qui vit, qui se mobilise, qui vit dans l'immédiateté, l'action, le présent. Elle n'a peut-être pas une pensée, mais elle est dans ce mode-là de l'immédiateté. Et souvent, ça sortait, parce que face à des analystes qui proposaient des lectures idéologiques, des lectures, le réveil arabe. On l'avait prévu, mais l'Occident ne voulait pas croire que nous nous révolterions, des choses comme ça. Et ils disaient, en fait, cette révolution, elle ne touche pas simplement le plan politique, elle touche d'autres aspects. Le mot liberté, il est subversif. Donc, il ne fait pas de doute pour moi que nous allons avoir une production pour une pensée de la liberté, effectivement. Et le problème numéro un que nous avons, c'est-à-dire la mère de tous les problèmes, c'est le rapport au pouvoir. Et c'est ce que je vous disais, quand le verrou de la peur a sauté, c'est quelque chose de très ancien à sauter. Nous avons 14 siècles depuis la mort du prophète, il nous manque une théorie du pouvoir. Contrairement aux affirmations, l'islam n'a pas produit une théorie du pouvoir. Le Coran dicte certains principes, mais le prophète est un orphelin. Il n'a pas laissé de descendance, il n'a pas eu de fils qui lui ont survécu. Donc voilà. Il n'a pas signalé de testament politique. Et on peut dire que dès la mort du prophète, le problème du pouvoir s'est posé. Et avec l'assassinat du quatrième calife Ali, qui a été à l'origine de la création des schismes et donc de ce qu'on appelle la grande discorde. Depuis 14 siècles, même ce qu'on appelle le califat, qui est un principe, le mot califat signifie simplement substitut, lieutenance de Dieu sur terre, c'est un principe. Mais nous n'avons pas pu construire quelque chose de cohérent. Et il y a eu ce que j'appelle l'esprit tribal qui l'a emporté. Sur l'esprit coranique. Et ce sont des logiques de pouvoir qui l'ont emporté. Et aujourd'hui, avec ce changement, donc cette aspiration à la liberté, il va falloir construire une vision et une théorie du pouvoir. Et donc, moi, ce que j'appelle sécularisation de l'islam, ce n'est pas tout à fait la même chose que ce qui s'est passé dans le christianisme. Le christianisme, vous avez l'Église qui était au-dessus de tout, qui était le pouvoir au-dessus du pouvoir politique. La sécularisation, c'est la séparation du spirituel et du temporel. Nous avons ce problème, mais ce n'est pas la même histoire que le christianisme. Parce que, contrairement au christianisme, en islam, le monde des religieux, le monde des théologiens n'a jamais gouverné. Il a été toujours utilisé, inféodé par les pouvoirs. Donc, si vous voulez, le lien, il est dans le niveau de l'inféodation. L'islam n'a jamais été au-dessus des pouvoirs, il était au service ou contre les pouvoirs. Mais c'est toujours dans un rapport d'inféodation, je ne trouve pas d'autre mot. Et donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, une sécularisation de l'islam? C'est simplement une autonomisation du religieux. Et ça, ce n'est pas du tout en contradiction avec l'esprit du troisième monothéisme, parce que c'est, finalement, c'est ça dont il est question. Le prophète n'était pas un roi. Cette aspiration à la liberté va nous permettre d'aborder ces questions qui étaient des questions taboues et des questions utilisées par les pouvoirs en place de tout temps. Et ce mouvement populaire qui est sans équivalent dans l'histoire de toute cette région va permettre vraiment de redéfinir ce rapport à l'islam et au pouvoir.
Mais en même temps, j'ai envie de vous dire bonne chance, parce que on a l'impression que, alors que la chrétienté, par exemple, dans la douleur, a fini par accepter une certaine lecture critique de ses textes fondamentaux, la question de la lecture critique du Coran, simplement de l'histoire de son écriture, reste à faire.
Bon, reste à faire. L'année dernière, il y a trois immenses philosophes qui sont morts. Le franco-algérien Mohamed Harkoun, qui a travaillé sur la raison islamique, le philosophe marocain Mohamed Abed El Jabri, qui a travaillé sur la raison arabe, et l'égyptien Nasr Hamid Abou Zeid, qui était réfugié en Hollande, qui a travaillé sur la raison coranique. Ces trois-là ont quand même fait une œuvre très critique et une œuvre très conséquente. Il y a d'autres penseurs. Simplement, effectivement, ce n'est pas une pensée qui est majoritaire, mais la pensée du mainstream, elle n'est jamais intéressante. Elle n'est jamais intéressante. Ce qui est très intéressant à observer, c'est comment, de la marge, quelque chose migre pour devenir majoritaire. C'est exactement ce qui s'est passé avec cette révolution. Et je suis sûr que sur la base de travaux de philosophes et de penseurs, parce qu'il y en a, qui travaillent courageusement sur ces questions, même s'ils étaient mis en minorité ou qui subissaient, disons, de la répression, je pense que maintenant, c'est ça qui va être encouragé, c'est que ce ne sera plus des questions taboues, mais vraiment qui seront des questions constitutives des nouvelles sociétés.
Toute une partie du discours convenu d'un peu partout en provenance des pays arabes est quand même très anti-occidental, ce que d'ailleurs par ailleurs on peut tout à fait comprendre, je veux dire. Simplement, il y a un moment donné où on se pose la question de savoir si simplement si c'est productif, si en gros ça sert à quelque chose de se construire des ennemis en permanence, quand bien même effectivement il y a des épisodes antérieurs qui sont et douloureux et qui méritent d'être remis en cause. Et du coup, l'Occident se pose la question, ben moi je fais quoi au milieu de tout ça? C'est quoi ma place? Après tout, je reste chez moi puisque je suis accusé. Ben je reste sur mon fauteuil puis j'attends que ça se passe. Comment voyez-vous ça?
Bon, l'autre aspect novateur, une idée de cette révolution, c'est que justement les diatribes anti-occidentales, même anti-israéliennes, ont été mises plutôt en sourdine. Ce n'était pas du tout le motif. On n'a pas vu des gens véritablement exprimer leur haine de l'Amérique, brûler des drapeaux. Ce n'est pas l'image que l'on retient. Donc ça, c'est une première chose. C'est que ces mouvements, les peuples sont occupés à régler des affaires internes. Donc ils n'ont plus justement cette haine, ou disons cette rancœur qui est plus que fondée quand on envisage juste la destruction de la nation irakienne en l'espace de 20 ans, à travers toutes les guerres, les embargos, la situation en Palestine, les bombardements, les guerres au Liban, enfin les bases militaires américaines dans le Moyen-Orient, ce qui fait que nous sommes virtuellement, le Moyen-Orient est virtuellement colonisés, même sur le plan physique. Il y a des fondements à ces rancœurs. Mais vous remarquerez que ce n'est pas la question du moment. Mais je ne vais pas éluder la question en disant que si nous arrivons dans cette phase à régler la question du pouvoir et que nous avons des équipes qui reflètent plus les sociétés, basées sur des principes de transparence, des principes démocratiques, la relation entre le nord et le sud de la Méditerranée va changer parce que vous n'allez plus avoir en face de vous des gens aussi dociles. Et sur le plan économique, ça va se traduire par d'autres rapports. Alors à court terme, ça va amener, je pense, les Européens à des révisions un peu déchirantes et peut-être aussi générer une sorte d'autocritique. Mais sur le temps long, je pense, et quand je dis le temps long, c'est dans une vingtaine ou trentaine d'années, je pense que ça va considérablement stabiliser l'ensemble du bassin méditerranéen et que quelque part, ce que vous disiez, l'Occident, moi je pense que nous sommes rentrés dans un monde post-occidental, mais quelque part, le monde arabe est la continuité de ce monde occidental. Je veux dire, dans la longue histoire, vis-à-vis du monde en dehors des trois monothéismes, etc., je veux dire, nous avons une entité là qui peut faire sens. Moi, je voudrais que le Maghreb déjà se construise. Vous aurez moins de problèmes d'immigration, etc. Je veux dire, essayons de favoriser le rapprochement entre l'Algérie et le Maroc, la construction du Maghreb. Et par là, si le Maghreb se construit, l'Égypte va aussi se rallier à ce projet. Il y a d'immenses perspectives sur le plan d'ensemble qui concerne des centaines de millions d'individus. Et je pense que ça peut redéfinir les relations, redéfinir aussi le rapport aux ressources énergétiques, parce qu'on dirait que ces équipes dirigeantes issues des indépendances politiques des années 60 n'étaient là que pour fournir un pétrole bon marché. Tout cela va changer. Mais je pense qu'à long terme, nous allons avoir des relations plus équilibrées et peut-être qu'il y a un pôle qui va se mettre en place par rapport à l'Asie, par rapport à l'Amérique, par rapport à l'Asie. Je ne vois pas ça d'une manière forcément conflictuelle, même si à très court terme, il faut évoquer la question d'Israël, le grand perdant de ces révolutions, le grand perdant est Israël. Mais entendons-nous, qu'est-ce que quand Israël, je parle du gouvernement des gouvernements israéliens qui se succèdent depuis une vingtaine d'années, à l'essentiellement des généraux comme premier ministre, des gouvernements corrompus qui n'ont pas su proposer offrir la paix à leur population, et quelque part qui nous ont conduits aussi à une impasse vis-à-vis de la résolution du problème avec les Palestiniens. Et quelque part, ces soulèvements, moi, je n'exclus pas que les minorités méprisées d'Israël aient envie aussi de donner un coup de pied dans la fourmilière et de changer. Donc, à court terme, ce sont la politique israélienne est la grande perdante, parce que face à des peuples qui utilisent les moyens démocratiques, y compris non militaires, des embargos, des mobilisations, je pense que ça sera très, très difficile de poursuivre une politique de répression. Donc la bataille pourrait se poursuivre, mais sur de manière non militaire. La démocratie, elle a quelque chose aussi de très dangereux pour tous ceux qui misent uniquement sur les rapports de force pure. Mais à long terme, tout est possible. On peut imaginer une reconfiguration. Si vous avez des régimes pluralistes, pourquoi ne pas envisager des reconfigurations pour Israël et la Palestine? Il semble que les deux États, la solution des deux États soit Enfin, les Israéliens ont tout fait pour rendre cette situation impossible. Pourquoi pas un État binational, après tout, une puissance aussi colossale que l'Union soviétique, puissance nucléaire, s'est dissolue, s'est transformée. Donc ce qui se passe actuellement, c'était impensable, inconcevable, etc. On ne peut pas exclure des transformations de ce type.
C'était donc le philosophe Reda Benkirane de Genève. Merci à Jean-Philippe Zvalen qui a réalisé cette émission. Bon après-midi à l'écoute de notre programme.